tous, vous êtes dans Alterbulle sur alterinfo.com, le site avec Monsieur B et...
Bonjour.
Bonjour Monsieur B et Caro à la technique, merci Caro.
Bonjour Caro.
Qui mange des cacahuètes.
Qui mange des cacahuètes, donc elle ne peut pas répondre.
Voilà le moment tant attendu où Monsieur B arrive à la maison avec...
Ouais, on est à la bourre.
Avec une pile de BD de futurs imparfaits. Et oui. D'enfance pas beaucoup plus...
Pas beaucoup plus parfaite.
Alors, une sélection BD donc en 4
BD.
4
voilà.
BD encore une fois. Donc, on commence par la science-fiction plutôt.
Tout à fait.
Un ouvrage qui s'appelle Le jour le plus long du futur. Tout un programme qui a été écrit par Luca Varela.
Alors, ça doit être Lucas Varela parce que le monsieur est argentin, je crois, il me semble.
Alors,
de tête.
Effectivement, ma connaissance de l'argentin.
Donc, on en avait déjà parlé, Lucas Varela. Je vous avais parlé dans les chroniques de Paolo Pinocchio, un album extrêmement noir et drôle où il reprenait un personnage de Pinocchio, mais un Pinocchio odieux et manipulateur qui terminait à chaque machination, terminait en enfer et finalement réussissait à se libérer. Et là, alors, il s'est amusé à faire donc de la science-fiction, le monsieur. On retrouve son trait. Enfin, moi, j'adore le dessin de Lucas Varela. C'est une ligne claire, extrêmement élégante et à la fois très organique. C'est-à-dire que il y a des bestioles abominables, il y a des espèces de créatures étranges, des textures pas un peu cheloues. Et pourtant, c'est un trait très, enfin. Une précision redoutable, d'une efficacité. Voilà, les bonhommes ont des petits yeux ronds. Hein, voilà, c'est vraiment la prunelle à la Hergé, quoi. Et ça donne un côté, un décalage entre la noirceur quand même de l'histoire et de son humour et
certaine naïveté
et
en même
le
temps.
Dessin. Voilà, c'est ça. Et côté assez suintant, assez désagréable en fait, un peu qui met mal à l'aise.
Donc c'est l'histoire d'un espèce de robot.
Alors c'est compliqué comme histoire. Donc c'est un album muet d'abord, ça j'adore. Enfin souvent voilà, ça passe ou ça casse quoi. L'album muet, soit vous avez vraiment une maîtrise de la narration impeccable et c'est parfait, soit c'est invitable à lire. Donc là lui il est vraiment très très fort. Enfin ça donne vraiment un côté dessin animé très fluide etc. Alors ça raconte en fait donc on est dans un futur pas très rose. Hein. C'est il y a deux cités voilà qui se font la guerre avec deux despotes plus ou moins fascisants l'un en face de l'autre. Donc il y a un gros cochon, une grosse tête de cochon et une grosse tête de Mickey en gros c'est ça quoi. Et donc ils sont la guerre et puis on a toute une galerie de personnages qui se retrouvent là-dedans, donc des espèces de fonctionnaires ordinaires, on a un robot de service qui va se retrouver pris dans le conflit entre les deux villes et il y a un petit élément qui va venir perturber la perfection de ce futur aseptisé et tout est contrôlé de A à Z. C'est un vaisseau extraterrestre qui arrive et il s'échoue. Le bonhomme, un petit bonhomme aux allures étranges sort et il se fait arrêter par et il se fait mettre en centre de déportation, fortement. Voilà, c'est ça l'accueil. Et sauf que le bonhomme a du ressort et il va sortir très très vite de la prison par des moyens que je vous laisse découvrir. Qui sont très très drôles et il va laisser une valise et la valise va mettre un boxon abominable là-dedans parce qu'elle a des effets tout à fait imprévisibles et donc c'est une espèce de jeu de massacre assez cruel hein, on va dire, ça finit pas forcément très 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 bien mais voilà donc il y a des rebondissements incessants, c'est très très bien mené, il y a des inventions visuelles ou narratives perpétuelles, il y a un robot donc le robot qui est en fait un robot tueur, voilà, programmé pour... Sauf qu'il a une fascination pour les mouches, donc à chaque fois qu'il passe une mouche comme ça, il regarde passer la mouche. Et donc il est au milieu d'un massacre, il est en train de massacrer tous ses collègues robots. Et là, hop, il y a une petite mouche qui passe, hop, il s'arrête tout de suite. Donc voilà, donc c'est très très amusant, ça se dit très 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 bien. Un petit regret sur le format, moi j'aurais aimé un format un peu plus grand, là c'est sorti chez Shampoing, chez Delcourt. Je pense que le détail aurait mérité un petit... mais l'objet est sympa quand même. Donc c'est très très conseillé.
Shampoing.
Ouais, Shampoing. C'est une collection de Delcourt. C'est la collection qui est dirigée par Lewis Trondheim.
D'accord.
Voilà.
Très bien.
Qui a très bon goût, mais voilà, qui donne des livres, il aime bien. Enfin voilà, c'est des séries de livres comme ça, souvent avec des grosses paginations, mais des petits formats, un peu des formats rablés. Donc ça convient bien à certains albums.
Celui-là,
moi, j'aurais bien aimé en grand quand même, je crois.
Donc ça s'appelle Le jour le plus long du futur et c'est de Lucas Varela, donc chez Shampoing chez Delcourt. On continue avec... Là encore, ça n'a pas l'air de se passer dans le présent tout à fait.
Non, encore un futur pas très très fun.
Voilà, ça s'appelle Retour à zéro. Mm. C'est, ça a été fait par Thierry Smulderen.
Oui, alors c'est le scénario.
Et Laurent Bourleau.
Voilà, qui a fait les dessins. Alors ça, c'est chez Ankama et c'est dans une collection que j'aime bien, en fait, qui est une série d'adaptations de romans de Stephen Woolf.
Oui.
Donc Stephen Woolf, c'est un nom un peu connu chez les amateurs de science-fiction. Donc c'est un Français, hein. Son vrai nom c'était Pierre Perrault. Alors il était chirurgien-dentiste.
Stephen Woolf.
Ouais, Stephen Woolf, ça fait plus classe quand même. Donc il a fait les riches heures de une collection, alors, je ne vais pas retrouver le titre évidemment, de science-fiction des années 70-80. Donc il a fait plusieurs romans très connus, dont. Alors je vais retrouver le dos. Hommes en série qui a été adapté par Topor au cinéma, voilà, Planète Sauvage. Et je trouve que cette collection assez réussie, hein, donc c'est fait par plein de dessinateurs et de scénaristes différents. Il y a une adaptation de Nurk qui est très réussie par Thomas Vatine, qui est très très agréable à lire. Mais celui-là, il a un petit plus particulier parce que en fait, Retour à zéro, c'est son premier roman. C'est le roman qu'il a écrit pour se prouver qu'il était capable. Donc, il était en train de finir ses études de chirurgien-dentiste. Et il s'est dit, bon, ben voilà, je vais me lancer un défi. J'écris un roman. Il l'a fait en une nuit, enfin, quelque chose de très... voilà, il l'a fait lire. Et puis, voilà, est-ce qu'il était capable de le faire, quoi. Donc, il y a un côté qui est assez touchant, c'est que c'est vraiment les premières armes, quoi. On sent... Et ce que je trouve vraiment remarquable de Smulderen, c'est qu'il a gardé le côté maladroit. C'est-à-dire que... Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte, en fait, un futur où la Lune est devenue une prison. Voilà. La Lune, quand vous êtes condamné... alors, vous n'êtes pas condamné à mort dans le futur, vous êtes condamné à être déporté sur la Lune. Donc, on commence par donc un ingénieur, voilà, qui a été apparemment responsable d'un accident terrible et qui est donc condamné à être envoyé. Donc, on le met dans une fusée, on le balance et il va atterrir de manière très très violente sur la Lune. Mais en fait, voilà, la vraie chose, c'est qu'il n'est pas responsable de l'accident. Il est envoyé en espion pour voir qu'est-ce qui se passe, parce qu'ils ont perdu le contact avec la Lune et ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe, parce qu'ils se doutent que la Lune prépare sa revanche sur la Terre. Et effectivement, ils ont raison. Donc ce héros va débarquer sur une Lune complètement folle. Il arrive dans un espèce de souterrain spongieux avec des bestioles incroyables.
Ouais, donc, morbide comme bestiole.
Voilà. Alors, un dessin très étonnant, très épuré, très géométrique. Je trouve vraiment très, très élégant. À l'ancienne, quoi, qui arrive à rendre aussi le côté kitsch de l'écriture. Il y a un côté désuet. Voilà, on est dans une science-fiction de 19e avec des costumes un peu bizarres, plein d'inventions complètement, voilà, qui paraissent complètement kitsch aujourd'hui. Mais le bonhomme va découvrir la société lunaire, donc une société très très dure où les femmes sont réduites à l'état d'objet. Alors il arrive de la Terre avec ses manières de gentleman et puis on dit non, attention, c'est pas comme ça que ça se passe ici, quoi. Et lui va mener sa mission d'espion en essayant de... Donc c'est plein de séances complètement... C'est très décousu, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est le premier roman, alors il met plein de trucs dedans, quoi. Il y a une scène de bataille où on miniaturise des médecins et ils vont se battre contre une maladie, donc ils prennent littéralement des épées et on les voit se battre avec des espèces de ténias monstrueux, voilà, donc dans le corps pour le sauver. C'est assez étonnant, avec des couleurs extrêmement très
couleurs, fortes. J'allais dire, c'est quand même assez...
Le rouge c'est rouge, le jaune c'est très primaire, hein,
oui, c'est très primaire, hein,
voilà, c'est ça, ouais.
Même des planches où on retrouve vraiment que les trois couleurs primaires, avec du noir, enfin des niveaux de gris, mais voilà, côté assez...
Donc un récit complètement désuet, hein, un côté complètement bancal, mais extrêmement touchant. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Il y a en plus, à la fin de l'album, une petite documentation avec une interview, avec des documents de préparation. Vraiment, je trouve un livre très, très, très réussi et très... toute la série sur Stephen Woolf de Ankama, je vous la conseille, mais je vous conseille particulièrement celui-là.
Oui, et celui-ci est un grand format comparé...
Voilà, il est très beau. Enfin, moi, je trouve le dessin très, très beau.
Très bien, c'était Retour à zéro de Thierry Smulderen et Laurent Bourleau chez Ankama. On continue avec une petite pause musicale avant d'enchaîner sur la suite. Vous êtes toujours dans Alterbulle sur alterinfo.com avec Monsieur B, notre grand sélectionneur BD. Et on vient d'entendre un super groupe discret rennais, mais très très bon, qui s'appelle Profondo Rosso, avec le titre Siamoise, et qui vient de sortir un 4 titres, on vous le conseille.
À écouter sur le Bandcamp, vous tapez Profondo Rosso Bandcamp, où on mettra le lien en bas de l'émission, mais ça vaut le coup. Hein. Si vous aimez les ambiances un peu cinématographiques comme ça, les ambiances feutrées, un peu inquiétantes, c'est parfait.
Alors, on reste dans le narratif avec un monsieur qui s'appelle Riyad Satouf.
Voilà, c'est ça.
Tu me disais, il n'a pas forcément besoin de ta chronique, mais quand même.
J'ai hésité, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de parler de Riyad Satouf, parce qu'il a fait à peu près toutes les radios et toutes les télés. Mais l'album est vraiment bien, l'album est vraiment bon. Donc c'est le deuxième tome de l'Arabe du Futur, donc la suite de sa biographie, les aventures de jeunesse en Syrie. Alors là, on est dans les années 80, et il a un ton quand même. Enfin, je trouve qu'il a vraiment quelque chose de très très fort. Il y avait... Enfin, une cruauté, il a un regard extrêmement acéré, je trouve, sur et cruel. Mais aussi, ce qui m'épate dans le livre, c'est qu'il arrive à rendre l'étrangeté du monde des adultes vue par un enfant, quoi. C'est-à-dire que Mais même, il y a un moment, il revient en France, il voit ses grands-parents, et c'est pareil. C'est-à-dire qu'il comprend absolument pas. Enfin, ils veulent faire du ski. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je trouve qu'il arrive vraiment à nous mettre dans la peau du gamin qui regarde les adultes avec toutes leurs contradictions, avec leurs mensonges, avec des actes incompréhensibles par un petit bonhomme comme ça, là, qui regarde ce monde. Alors la Syrie, effectivement, là, on est... un cran au-dessus dans l'absurde et dans le côté étrange et imprévisible. En plus, là, dans cet album-là, il rentre à l'école. Alors là, l'école syrienne, c'est extraordinaire. Enfin, il a une maîtresse. Je vous laisse découvrir les séances, la journée de l'élève syrien. C'est assez extraordinaire. Enfin, il y a quelque chose de fou, quoi. Enfin, il y a un sidérant. Alors, le drame est jamais loin. Enfin, il y a un côté toujours inquiétant, mais il a une justesse qui est vraiment, je trouve, très très forte. Donc, bon, voilà, il en a déjà vendu plein, c'est traduit dans plein de langues. Mais je vous le conseille, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de lire le premier tome ou ce second tome, allez-y, quoi. Il y a pas de... enfin, faut pas hésiter.
Voilà, et c'est sur Alary Édition. Riyad Satouf, l'Arabe du futur, le tome 2 et le tome 1, bien sûr. Et on finit avec un livre qui est paru chez Actes Sud BD, même eux s'y mettent, qui s'appelle La Favorite et qui a été écrit par Mathias Lehmann.
Alors, Mathias Lehmann, c'est un auteur que je suis depuis un certain temps. Alors, il a publié dans des revues, voilà, il faisait des récits courts. Alors, il a un dessin très, très particulier, noir et blanc, hein, un ancrage. Il a une façon d'ancrer très, très, très particulière. Enfin, c'est assez compliqué à décrire au micro, mais vous regarderez les images. Mais voilà, il rajoute des hachures. Il y a une façon de gérer les noirs qui est toujours surprenante. C'est jamais c'est jamais atypique, enfin c'est jamais typique, voilà, on n'est jamais en terrain connu. J'aime beaucoup sa façon d'éclater les pages. Enfin, il a une narration aussi où très libre, très alors il va mettre des cases et puis après il n'y en a plus, on passe à des grandes pages, les récits s'insèrent les uns dans les autres. Enfin, je trouve ça très 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 fort. Et là, on est dans un récit d'enfance aussi.
Oui.
Donc c'est l'histoire de Constance. Donc on découvre cette petite fille, elle est dans un grand manoir en pleine campagne et elle vit avec sa grand-mère et son grand-père. Alors là, le grand-père fait pas grand-chose à part rester assis dans son fauteuil à picoler, à lire des poèmes, et sa grand-mère passe beaucoup de temps à lui crier dessus et à lui faire subir les pires châtiments, parce que forcément elle est toute seule dans cette maison avec son chat et bien s'occuper, et c'est compliqué. Donc, on est dans un... Il y a un côté comtesse de Ségur au départ, hein, donc le récit est très, très... donc la bêtise, le châtiment terrible qui arrive derrière. Donc, c'est pas très, très, très drôle. Et puis, on va découvrir au fur et à mesure que il y a d'autres choses qui se cachent dans cette maison. Enfin, il y a un récit qui va se déployer qui est très, très fort.
Ouais.
Sur qui est cette jeune fille exactement, qui est cet enfant, et donc un récit. Alors je préfère en dire le minimum, hein. Je trouve que dans les résumés que donne l'éditeur, il dévoile un peu trop de choses. Moi, j'ai envie de vous laisser découvrir le récit jusqu'au final, qui est vraiment très très impressionnant. Mais là encore, là, comme chez Riyad Satouf, on est vraiment à la hauteur. Il arrive à rendre vraiment le sentiment de ce que c'est que l'enfance. Je trouve ça vraiment très, très fort en littérature et en bande dessinée d'être capable de faire ça. C'est-à-dire que on est avec cet enfant-là, ses promenades, ses jeux, son imaginaire qui se mélange parce que bah, faut bien survivre à l'ennui. Et y a un moment, la grand-mère... fait une erreur qui va lui coûter cher par la suite, mais elle engage des gens pour s'occuper de la maison. Elle va engager un couple de Portugais qui ont aussi des enfants. Et il va y avoir la confrontation avec ces deux enfants qui viennent, eux, de l'extérieur. Et les résultats vont être... il se passe... Alors, on est sur un récit. À la fois, il y a des scènes très réalistes et puis on part sur d'autres choses. Il y a un moment purement... On est dans Max et les Maxi-Monstres. Elle met un masque et elle se balade dans la forêt. On a une scène absolument saisissante de cet enfant là, avec ce masque qui avance au milieu des arbres et qui va vers les autres enfants au bord de la rivière dans une scène absolument incroyable. Je trouve alors on a envie d'en raconter le minimum quoi, sur l'histoire, parce que l'histoire est vraiment très 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 forte, donc c'est dur hein, mais
ça n'a pas l'air
non gay, c'est pas très très gay, mais il y a vraiment une puissance. Je trouve que dans ces récits, il y avait déjà, dans ces récits précédents, je trouvais qu'il y avait, il a un humour très, très, très particulier. Mais là, je trouve que c'est vraiment ce qu'il a fait de plus fort, largement. Et du coup, c'est un auteur, à mon avis, pas assez connu, que je vous invite à découvrir. Mathias Telemann, celui-là ou ses précédents, n'hésitez pas, hein, ça se trouve en bibliothèque. Voilà, celui-là, je vous conseille l'achat parce que c'est un très bel album. En plus, alors il a une couverture un peu ingrate, pas facile, avec des couleurs qui vont pas vous attirer dans un linéaire BD. Mais franchement, ça vaut le coup de franchir la page. Quoi. Enfin, voilà, ça plaît pas à tout le monde ce genre de couverture un peu marron
pas,
comme ça. Voilà.
C'est pas raccord avec
le noir et blanc. Ça plaît pas à tout le monde non plus, mais franchement, voilà, tenter l'aventure, le voyage en vaut largement le détour.
Super. Donc, c'est La Favorite de Mathias Lehmann chez Actes Sud BD.
Voilà. Bon,
voilà, on vous redonne tous les titres un coup. Alors, on avait commencé tout à l'heure avec Le jour le plus long du futur de Lucas Varela. Ensuite, on avait enchaîné avec Retour à zéro de Thierry Smolderen et Laurent Bourlot. Pour continuer avec L'Arabe du futur 2, le tome 2 donc, de Riyad Satouf. Mais il y a aussi le tome 1. Et on vient de finir avec La Favorite de Mathias Lehmann. Donc, vous pouvez retrouver tout ça sur le podcast, toutes les informations.
Donc, normalement, on devrait revenir pendant l'été. La sélection est prête. Donc là, ce sera des adolescents. On va parler d'adolescents.
Encore
et de barbe. alors, celui-là, je n'ai pas réussi à le placer dans le thème. Mais des adolescents bien, bien en colère, bien énervés. Et donc, une barbe maléfique.
Une barbe maléfique. Ça, c'est du teasing. Bon, à très bientôt. Bon été. En attendant la prochaine émission. À bientôt.
À bientôt. She looks so good.